Jocelyne Alain-Millet, un opéra de Miral Glinka dont nous écoutions l'ouverture par l'Orchestre Symphonique de la Radio-Télévision du RSS dirigé par Vladimir Fedoseyev. Seconde de musique choisie pour nous par Sergueï Azanov, invité de Matin Complice, écrivain et journaliste russe moscovite pour être précis, et réfugié politique dans notre pays depuis 4 ans. Ruslan Alimulin, d'après Pouchkine, une légende, celle du pro qui combat les forces du mal. Vous ne l'avez pas choisi pour rien, je présume. Vous aimez cette musique, vous alliez l'écouter?
Oui, bien sûr, surtout parce que cette musique correspond vraiment parfaitement à le poème de Pouchkine. Et Pouchkine, c'est notre classique, c'est le créateur de notre littérature. Et ce qu'on apprend à l'enfance, après on abandonne, et après, avec les années, tous les Russes, c'est lettrés, c'est intellectuels, reviennent à Pouchkine. Oui. C'est une richesse inépuisable.
Quand vous étiez adolescent, étudiant, et puis vous-même professeur en Russie, la culture était à votre portée comme elle était à la portée de tout le monde. Elle était accessible, elle était bon marché.
Oui, c'est très intéressant, c'est vrai. En Russie, la culture était vraiment bon marché, était tout à fait accessible. La vie artistique, la vie théâtrale, les littératures à Moscou, surtout à Moscou, à Leningrad, dans les quelques villes capitales, étaient très intensives, et le billet coûtait presque rien, et tous les gens pratiquement pouvaient visiter, fréquenter les théâtres. Ce n'était pas le cas de la Provence, mais je parle maintenant quand même de métropole, et ce n'est pas pour rien que je parle de métropole, parce que quand même la métropole, la Moscou jouait en Russie le rôle qu'on parlait Paris joue en France, parce qu'on dit qu'est-ce que c'est la France? C'est Paris et la Provence. Et à la Russie, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est la Russie? C'est Moscou et un petit peu de Provence.
Pourtant, cette Russie-là, elle était immense.
C'est immense, oui. C'est vrai. Un sixième de la Terre.
Est-ce que vous aviez l'occasion de voyager dans votre pays?
Oui, j'ai eu de la chance de traverser, je ne pas franchement, mais pratiquement toute la Russie. J'ai profité beaucoup comme invité de comme journaliste, comme écrivain, de donner les petits conseils littéraires. Et j'étais envoyé, c'est drôle, mais j'étais envoyé par le comité central de la partie des jeunes communistes, Komsomol. Voilà, c'était le voyage. Pourquoi j'ai profité de cette possibilité? Parce que la Russie est immense, mais malheureusement, il n'y a pas de conditions pour le voyage, surtout en Provence. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de transport. Et quand j'étais envoyé avec le concert de la part de comité central de la jeunesse communiste, il y avait toutes les conditions. Voilà, c'est-à-dire que demain, on m'a demandé seulement de donner le concert, mais tous les soucis étaient pris par cette organisation puissante, super puissante. Voilà. Et j'ai profité, j'étais partout, j'étais en Sibérie, au nord, au sud de Russie, même en Afghanistan. Oui, en Afghanistan.
Pendant l'invasion, quand même?
Non, pas non.
Pendant,
oui. C'était l'année 84, on donnait des concerts aux grands frontières et aux soldats soviétiques qui étaient là-bas, qui étaient au Afghanistan.
Vous aviez conscience à ce moment-là, c'était il y a peu de temps, d'un événement épouvantable?
Oui, bien sûr. Même à cette époque, tous les Russes avaient la conscience que c'était terrible, c'était une chose épouvantable, il faut l'arrêter. Et surtout quand j'ai visité l'Afghanistan, quand j'ai vu les jeunes soldats avec les gens, avec les mains, les jambes coupées pour rien, pas pour leur patrie, leur vie était détruite. Bien sûr, je comprenais ce que effroyable, mais on ne pouvait faire rien, on habitait dans la dictature.
Exactement. Quand vous avez quitté, je le rappelle, il y a 4 ans, réfugié politique en Suisse, vous continuez à travailler ici, mais pendant toutes ces années de vie à Moscou, vous avez été, vous le disiez tout à l'heure, le chantre de l'université justement soviétique.
Justement. Si c'est possible, j'aimerais chanter quelques mots. Loranger, quelques louanges. Ce gratte-ciel de Moscou a été construit, c'est très intéressant, au début des années 50, par les détenus des camps staliniennes. Et ça devient quand même un temple de la jeunesse et une verre chaude talents russes, des talents russes. Comme je vous ai dit, à cause des raisons sociales, Moscou vraiment était le centre de la vie intellectuelle de cet énorme pays. Et tout le cerveau de la Russie s'est rouillé à Moscou. Voilà. Et aux années 60, la faculté la plus intéressante à l'université était, bien sûr, la faculté de mathématiques. Pourquoi? Parce que c'était la faculté la plus libérale qui acceptait quand même assez beaucoup des enfants d'intellectuels et de juifs, ce qui était interdit pour les autres facultés. Mm-hmm. C'est très intéressant, voilà. Et cette faculté apportait toujours à l'administration de l'université pas mal de mauvaises surprises, comme la littérature et les démonstrations antisoviétiques. Il y avait beaucoup d'ennemis, mais la faculté restait toujours libérale. Les étudiants de notre faculté, c'était vraiment les personnes polyvalentes. Ils partageaient leur temps entre la recherche mathématique et la passion pour les arts, la littérature, la musique. Ces scientifiques composaient à côté des romans joués dans les théâtres professionnels et dans l'orchestre professionnel. Ils publiaient des œuvres sur le sujet philosophique et historique. C'est-à-dire que, des êtres harmoniques, quoi. Voilà. Comment c'est arrivé? Simplement, aux années 50, les parents soviétiques, ayant survécu tous les malheurs de l'époque stalinienne, y compris le terreur des camps de concentration, la guerre, la faim, l'instabilité éternelle, ces pauvres parents n'ont demandé de leur enfant qu'une chose. Avant de s'amuser avec les arts, il faut d'abord acquérir un bon métier.
Mais ça, c'est partout pareil dans le monde, hein?
Peut-être, mais chez nous, c'est
la vocation des parents.
Et c'est pour ça que ce jeune très doué, très doué, avec des talents nombreux, se sont trouvés à la faculté de mathématiques. Et la vie vraiment sociale, la faculté était si attentive et si intéressante, malgré les efforts d'administration, que c'était toujours à l'objet de la jalousie de la part des autres facultés, des physiciens, des lettreux, des philosophes. Par exemple, notre théâtre amateur et notre orchestre de musique de chambre étaient glorieux dans tous les pays. Pour détruire cette source de la pensée libre, je dirais, l'administration et le comité du Parti communiste finalement ont fermé l'accès à la faculté aux juifs, aux arméniens et en général aux rejetons d'intelligence.
Et pourtant, à Moscou, c'est là qu'était construite la première université pour les étudiants du tiers-monde. C'est quand même étrange.
Oui, mais cette université, c'était une serre du KGB. Cette université de Patrice Lumumba, de quoi vous parlez. Oui. Malheureusement, le niveau de l'éducation était très bas. Et cette université était construite dans le but, je dirais, dans le but sacré de préparer les gens sympathisants au système socialiste.
Envoyer le communiste ailleurs dans le monde.
Justement. Oui. C'est incomparable avec l'université de Lomonosov.
Vous donnez votre université, vous y avez été étudiant et vous y avez été professeur.
Oui. J'adore cette époque. Cette époque, bien sûr, a fini. Maintenant, on n'y a rien.
Comment c'est maintenant?
Maintenant, malheureusement, tous les bons gens scientifiques ont immigré. Ils travaillent ailleurs, en Amérique, en Europe occidentale, en Israël, en Australie. Maintenant, il n'y a que les gens âgés de 60, 70 ans qui ont peur de sortir, ou bien les jeunes qui sont dans l'université, mais malheureusement, après la fin de leurs études, ils vont aller ailleurs, parce qu'il n'y a pas de vie scientifique.
Vous y êtes resté parce qu'on ne pouvait pas en partir jusqu'en 1990.
Oui, c'est juste. C'est juste bien que, bien sûr, après, comme on a parlé tout à l'heure, après le printemps de Prague, on était conscient de ce qui se passe, de ce qui se passe, et les œuvres de Sakharov étaient bien connues au milieu intellectuel au moins, bien qu'elles étaient persécutées. Vous devez bien comprendre que pour un bouquin de Solzhenitsyn ou une œuvre de Sakharov, ça coûtait plusieurs années de prison, tout de suite, sans tribunal.
Et pourtant, dans cette Russie-là, l'université était fort brillante, tous les cerveaux s'y précipitaient, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous y avez passé quand même de belles années, puisque vous avez pu être professeur, journaliste, et on s'est amené à voyager, à assister à tout ce qui se passait dans le monde de la culture. Vous avez aussi publié des livres. Donc, pour vous, c'était une espèce quand même de liberté.
C'était pas la liberté, parce que c'est très important. C'était pas la liberté. Oui, j'ai eu de la chance que j'avais un métier, mathématicien. Je pouvais toujours gagner ma vie à côté. Parce que le destin de la plupart des journalistes russes était un destin amer. Assez amer. Pourquoi? Parce que le métier de journaliste russe, c'est un métier, excusez-moi, d'une prostitute. Il doit écrire ce que le rédacteur lui ordonne.
Vous l'avez senti, vous?
Bien sûr, je travaillais, c'est pour ça. J'ai travaillé, à l'époque, je travaillais dans plusieurs revues comme journaliste, voilà, et j'ai dû écrire les choses qui étaient tout à fait contraires que ce que je voulais écrire. Et l'éditeur m'a corrigé, l'éditeur m'a donné des sujets, m'a commandé des sujets, et l'éditeur pouvait biffer ce qu'il voulait. Et je ne pouvais pas même biffer mon nom, je ne voulais pas que mon nom apparaisse sur cet article, mais j'étais obligé, parce que c'était mon pan. C'est pour ça que j'ai essayé de garder toujours c'est mon credo d'être indépendant financièrement. Et j'étais en même temps le scientifique et l'écrivain, ce qui malheureusement compliquait beaucoup mes relations avec mes collègues écrivains, parce qu'ils étaient quelque part jaloux de moi, puisque c'était beaucoup plus indépendant que la plupart des écrivains aussi, sauf les quelques étoiles, dû gagner leur pan et leur beurre en faisant les traductions de langues orientales, en faisant n'importe quoi, parce que pour le bouquin n'était pas tout à fait beaucoup payé. Voilà, tandis que moi, toujours avais mon salaire à côté.
Mais à quel moment avez-vous l'envie, l'idée de partir?
Oui, j'ai l'envie de partir, je crois que des années 70. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis juif. Je suis juif. Juif russe, c'est pas du tout ce que sont les juifs ici, parce que c'est chose ethnique, mais la culture, l'homme qui est 100% russe, pas la culture, mais d'origine juive. Voilà. Mais malgré cela, les juifs en Russie étaient toujours les gens du deuxième sort. Deuxième race, parce que les juifs ne pouvaient pas se monter plus que quelques niveaux. Il y avait quelques niveaux. Voilà. Et ils ne pouvaient pas occuper quelques postes. Et la plupart de mes. Même ne pouvaient pas entrer dans l'université de Moulin, sauf moi, j'ai eu de la chance. Moi, j'étais un des rares juifs qui ont terminé cette école extrêmement prestigieuse. Voilà. La plupart de mes copains juifs, ils sont partis de Moscou parce qu'ils n'avaient aucune chance de profiter là-bas au début des années 70.
L'immigration,
voilà. Moi, puisque j'étais écrivain, j'étais lié avec la langue, je ne pouvais pas me décider de partir, oui. Mais à la fin des années 80, quand j'ai publié au début de Pistroïque, quand j'ai publié assez beaucoup d'articles sur le sujet philosophique, le sujet politique, j'ai commencé d'avoir le vrai ennemi. Il y avait des menaces à mes enfants, voilà. Et ces ennemis s'accumulaient, et finalement, nous avons pris la décision de partir, mais puisque à l'époque c'était pas du tout possible de partir ouvertement, on a profité d'invitations privées de sortir comme touriste de notre camarade journaliste à Genève. On est arrivé ici comme les touristes pour 2 semaines.
En famille, c'était possible?
Oui, c'est très difficile, mais on a réussi. Et après, j'ai déposé la demande d'asile, et cette demande a été acceptée.
Pourtant, c'était déjà une époque de libéralisation du régime, fin des années 80.
Oui, justement, mais j'ai eu des questions personnelles, parce que je pouvais présenter les documents prouvant que j'étais persécuté, des raisons ethniques, des raisons politiques.
Quand vous êtes parti, vous ne parliez pas un mot de français?
Non.
Votre famille non plus?
Non. J'ai pu lire un peu en français les articles scientifiques. Et pour les Russes, j'ai cru que je connais le français, mais en arrivant ici, j'ai compris que pas du tout. Si quelqu'un peut dire merci beaucoup, c'est pas du tout le français. Malheureusement, le français, qui était la première langue russe à l'époque des tsars, parce que tous les nobles ne parlaient que français, pour Pouchkine, il a commencé de composer les vers en français. Seulement après, il a commencé en russe, oui. Oui, malheureusement, maintenant, le français n'est pas du tout populaire. Non. Et pourquoi ? La raison est très simple, les gens n'avaient pas de perspective pour apprendre des langues étrangères, c'est tout.
Et bien aujourd'hui, 4 ans après, vous parlez français et vous écrivez en français, on va y revenir d'ailleurs. Du Chopin dans ce matin complice avec Arthur Rubinstein au piano, le Philadelphia Orchestra dirigé par Eugène Normandie, fantaisie sur des airs polonais. Musique à nouveau choisie par Sergueï Azanov, notre invité d'aujourd'hui, parce que la musique et toutes les musiques, j'imagine, ont fait partie de votre culture russe et moscovite, puisque vous y aviez accès facilement.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. La musique, la culture, la littérature, le théâtre, c'était un des éléments principaux de notre vie. Et si c'est possible, j'aimerais toucher ici une question très importante. Comment la culture, l'art ont pris en Russie et en Occident, parce qu'il y a une différence très importante. En Russie, à cause des raisons historiques, sociales et religieuses, l'art et la littérature avaient toujours deux fonctions. Première, esthétique, parce que c'était la fête, c'était une sortie unique dehors de la vie grise quotidienne. Toujours aller au théâtre, au concert. Et d'abord, et deuxième question très importante, une fonction morale. En fonction morale. Parce que la culture, c'était toujours une bible de la vie, c'était un manuel où les Russes se trouvaient toujours, cherchaient au moins les réponses sur les questions principales de l'existence. C'est très très important, ce qui n'est pas le cas en Occident. Parce qu'en Occident, l'art n'est qu'une partie habituelle de la vie. En achetant les billets au concert, vous, les gens occidentaux, déjà pensez où vous mangerez après le spectacle. Ce qui pour nous, c'est impossible. Et les discussions après le spectacle touchent en principe surtout le jeu d'acteur, la mise en scène, les questions techniques, mais très rarement les aspects moraux. C'est-à-dire que je dirais comme ça, c'est une consommation, mais pas d'autre. Et bien sûr, c'est pratiquement exclu que quelqu'un ici, après, suive les recettes d'écrivains dans sa vie privée. Mmh. C'est très rare.
Monsieur Zanoff, dans une des lettres que vous avez écrites, dont vous régalerez, je l'espère, demain soir les auditeurs du crachoir, vous dites est-ce que les Suisses représentent un peuple, une nation? Trois gros rires, pourquoi trois? Parce qu'il y a 3,5 langues dans ce pays. Je vais presque vous demander de fermer les yeux. Quelle est votre image de la Suisse aujourd'hui, 4 ans après?
C'est une question, je dirais, épineuse. Épineuse, on ne peut pas répondre par un mot. J'aimerais bien être bref, mais pardon. Bien sûr, il y a les avantages et les désavantages. D'abord, j'apprécie énormément la Suisse comme ma nouvelle patrie, le pays qui a accueilli moi et mes enfants. C'est un pays qui a beaucoup d'avantages, comme par exemple les avantages énormes, la propreté, l'écologie, l'honnêteté des gens. Il n'y a pas beaucoup de mensonges par rapport aux Russes. Oui. Vous comprenez, parce qu'en Russie, la vie était toujours double. On disait une chose au travail, l'autre chose à l'école, troisième chose aux amis, etc., etc. Ici, les gens essaient d'être honnêtes. Et aussi, bien sûr, le système politique, très très stable, quand même, 7 ans d'existence pacifique, c'est pas rien. Même Solzhenitsyn, il pose toujours pour la Russie l'exemple de la Suisse, et pas de la France, pas de Grande-Bretagne, c'est comme système politique de la Suisse, des cantons. Voilà. Bien sûr, il y a quelques points qui sont assez difficiles pour moi, comme un Russe, d'apprendre, de prendre dans le cœur. Et bien sûr, quelques, à mon avis, l'air social est assez étouffant. Bien sûr, malheureusement, les gens, parfois, les gens sont trop pragmatiques. Ils pensent trop d'argent et ils manquent de la culture générale. Pas parce qu'ils sont bêtes, pas du tout, mais parce qu'ils pensent trop d'argent. Ils lisent pas beaucoup, c'est malheureusement. Une bonne réponse. Voilà, les gens sont assez cool, assez enfermés. Voilà. Et aussi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que l'information ici, donnée dans la presse occidentale, en particulier dans la presse la Suisse, la formation sous la Russie, n'est pas tout à fait objective, à mon avis personnel. Elle ne correspond pas à la réalité. Pour ça, il y a plusieurs raisons. D'abord, je crois, la première raison, que les journalistes occidentaux qui travaillent à Moscou ne peuvent jamais comprendre à 100% la mentalité et l'air de la Russie. De plus, le russe, langue russe, est en général assez faible, parce que russe, c'est une langue très, très, très difficile. Et j'ai jamais rencontré un occidental qui parle russe sans accent. Et vous devez comprendre la Russie qui habitait toujours sous le peur du KGB. Le russe ne va jamais parler ouvertement avec un étranger. Du coup, c'est un étranger. Jamais. C'est-à-dire qu'il ne peut pas donner l'information objective, honnête. C'est-à-dire que toute l'information que les journalistes occidentaux puissent à Moscou, ils puissent chez les chers amis russes ou bien à Moscou dans le parti. Mais ce n'est pas tout à fait la vraie information. C'est pour ça que leurs articles et reviews paraissent à moi et à la majorité des Russes toujours un petit peu superficiel.
Maintenant, justement, qu'on peut dire quand même qu'il y a une certaine ouverture, en tout cas sur la paix et sur l'espoir, pourquoi des gens comme vous n'écrivez-vous pas sur votre pays depuis votre pays? C'est une question, pas un piège. Hein.
C'est une question très très bonne, et ça touche un point faible, parce qu'il y a en Suisse, malheureusement comme en Russie, il y a le système de monopole. Il y a des gens, par exemple, en France, en Suisse, en Amérique, l'américain, suisse, français, qui garde le monopole ou tous les sujets russes. Moi, j'aimerais bien proposer à quelques journaux en Suisse mes articles, surtout parce que j'écris en français déjà. Mais malheureusement, il y a le monopole, il y a les gens qui gardent le monopole et ils ne donnent pas l'accès à ces sujets.
Vous ne croyez pas que ça viendra, ça?
J'espère bien que ce n'est pas seulement le monopole, pas le mafia. J'espère bien, mais pour le moment, c'est comme ça. Il y a le monopole à Genève, il y a le monopole à Lausanne, il y a le monopole à Paris. Et c'est pour ça que vous ne trouvez jamais, parmi les journalistes occidentaux accrédités à Moscou, vous ne trouviez jamais les journalistes d'origine russe. Jamais. Il y a seulement les Américains, les Suisses, les Français, mais jamais les Russes. Bien que les Russes peuvent avoir l'accès beaucoup bien plus libre à la formation.
Alors, je vais quand même vous poser cette question qui me titille. Est-ce que vous retourneriez à Moscou demain, aujourd'hui, après-demain?
Il y a deux aspects des problèmes. Premier, je n'ai pas le droit de retourner à Moscou parce que je suis réfugié politique. Voilà. C'est-à-dire jusqu'à la naturalisation, je n'ai pas le droit de jurer.
Imaginez-vous avec un passeport dans les mains.
D'accord. Deuxième, est-ce qu'il y a Moscou où je peux retourner? Je crains que Moscou de ma jeunesse, Moscou des années 60, 70 n'existe plus, d'après ce que j'ai entendu de mes amis. Voilà. Mais bien sûr, comme écrivain, j'ai besoin du milieu de la langue russe, et c'est pour ça que si j'avais eu cette possibilité, bien sûr, j'aurais habité à Moscou à peu près une demi-année, comme ça.
C'est comme des racines, c'est important.
Oui, bien sûr, c'est très très important, parce que je perds la langue ici, c'est sûr.
Cette langue pourtant que vous avez faite vôtre, puisque je le rappelle, demain soir samedi, à partir de 22h au cabaret littéraire Le Crachoir à Lausanne, c'est dans le cadre du théâtre de l'Arsenic, eh bien vous serez là, Sergueï Azanov, lettre russe montrant who is who et to be or not to be en Russie et en Suisse, c'est-à-dire que vous expliquerez un peu plus ces quelques impressions que vous avez bien voulu nous faire partager dans ce Matin Complice. Alors, une dernière musique que vous avez choisie pour nous, c'est un extrait de la symphonie Leningrad, on devrait presque dire aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Elle est signée Shostakovich, c'est le philharmonique de Leningrad dirigé par Maris Jansson. Cette symphonie qui a été écrite, je crois, en 1941, alors qu'Hitler venait de donner l'ordre d'envahir la Russie. Oui. C'est ça?
Oui, c'est...
Mais c'est quand même un beau moment musical.
Oui, justement.
Les dernières notes de ce Matin Complice, c'était russe, Shostakovich, symphonie Leningrad. C'est la fin de cette émission. Merci Sergueï Azanov, on vous retrouvera certainement demain au Crachoir à Lausanne. Il est l'heure à présent de se séparer et de prendre congé des auditeurs de Radio Suisse Internationale en les remerciant de nous avoir accompagnés.